semaine, j'ai fait donc un message sur le « Peut-on perdre son salut ?» Et donc, je vais continuer aujourd'hui. Et ce que je vous partage déjà, c'est ce que je crois. C'est aussi cohérent avec la déclaration. C'est cohérent avec la déclaration de foi d'Église. Et je le fais sous l'autorité des anciens. Le plan que j'ai suivi, en fait, c'était, donc j'ai commencé il y a un mois, c'était de dire, ben, on va pas regarder ça sur ce qu'on peut penser, sur ce qu'on peut ressentir parfois, mais on va essayer de le faire de manière un peu systématique, en regardant d'abord l'ensemble des passages, des versets qui nous garantissent que le salut, je ne peux pas le perdre, et que j'ai l'assurance, et puis une deuxième étape, qui est aujourd'hui, on va regarder ben, les versets qui peuvent nous mettre le doute, et quand on lit ces versets, ben, c'est un peu, voilà, il y a besoin de creuser un peu. Et dimanche dernier, j'avais proposé à ceux qui voulaient de m'envoyer ou de me donner les versets qui les embêtaient. Et c'est super, j'ai une personne qui m'a donné une douzaine de versets à travailler. Je ne les ai pas tous faits. La personne se reconnaîtra, je n'ai pas pu tous les traiter. Et je ne pourrais pas tout traiter aujourd'hui parce que sinon voilà, on va terminer à 2h de l'après-midi. Mais il y en a bien la moitié que je traiterai ce matin. Voilà. On n'est pas de petit schéma. C'est juste un petit peu embêtant ça. En attendant, comme c'est un sujet qui n'est pas simple, est-ce qu'il y a, peu importe qui, quelqu'un qui veut prier pour ce message, à la fois pour que nos cœurs soient ouverts et pour que moi je raconte pas de bêtises, que je sois vraiment guidé par l'Esprit de Dieu. Voilà, si quelqu'un veut prier.
Merci Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Et c'est l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de rentrer dans ta parole. Père, je prie, Seigneur, que tu disposes le cœur de chacun de nous ici. Seigneur, que tu disposes le cœur de Stéphane, Seigneur. Que tu mettes, Seigneur, sur lui ta parole. Père éternel, que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse dans chacun de nous. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, révèle, Seigneur, ta parole, Seigneur. Ce qui est vrai, Père. Et nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Je vais quand même essayer d'avancer. Donc la dernière fois, on avait vu une dizaine de passages. Il y en a plus, mais il y a au moins une dizaine de passages un peu, je dirais, fondamentaux qui présentent le salut comme étant quelque chose d'irréversible. Et ce que vous verrez, si ça marche d'ici peu, c'est que il y a un certain nombre de ces passages qui sont des passages qui sont assez généraux, c'est-à-dire qui présentent les choses comme, je dirais, un élément de doctrine. Et c'est par exemple entre des expressions comme « à tous ceux qui » Super. Ça marche. Super, super. Voilà. Grâce de Dieu, il a réparé la vidéo. Ça, je vous l'ai dit. C'est ce que je vous ai dit tout de suite, c'est le plan où on a vu la dernière fois tous les passages qui assurent de la nature irréversible du salut, et au jeu, on va regarder les passages qui sont plus compliqués. Néanmoins, pour qu'on soit encouragé, parce que c'est bien de regarder ce qui est compliqué, mais je veux repasser un petit peu de temps, pas trop longtemps, mais sur la première partie, pour qu'on soit bien, qu'on se rappelle tous ces passages-là. Ouais, je fais un peu dans le désordre. Premier point, ce que je vous disais, il y a de très nombreux passages qu'on va pas revoir, on va voir juste quelques-uns. Mais je voulais souligner que souvent c'est des principes généraux, et dans ces versets qui attestent de l'assurance du salut, il y a des mots qui sont forts, il y a des expressions, il y a des quiconques, à tous ceux qui, il y a des choses, voilà. Alors qu'on ne trouvera pas forcément ça tout à l'heure, et il y a une partie analyse du texte biblique qui est différente. Et dans tous ces passages-là, on voit toute l'importance de ce que Dieu fait. Et comme quoi c'est lui qui est le garant de cela. Alors on va regarder. La dernière fois on avait vu tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu tous ces passages-là. On ne va pas les revoir. Je les ai mis sous forme d'un petit dessin. J'aime bien les dessins. Plus vous me connaîtrez, plus vous verrez que ma tête est faite de schémas et de dessins. Un petit dessin pour les enfants. Un petit bonhomme qui est là, qui est tout gris avec un cœur noir, c'est moi, c'est Stéphane, avant que j'aie rencontré mon Dieu. C'est un petit cœur noir, c'est une manière illustrée de montrer que j'étais mort spirituellement. Il est tout gris parce que dans ma vie, il y avait quelques petites choses bien, mais beaucoup de choses pas bien. J'étais pécheur. Et dans tous les versets qu'on a lus la dernière fois, qu'on a étudié, eh bien, on a vu que j'ai été enseveli avec Christ à ma conversion, que Dieu m'avait rendu parfait à perpétuité, ou parfait pour toujours, et que j'ai été scellé du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu faire habitation dans mon esprit en me rendant vie. C'est pour ça qu'après mon petit cœur, il est blanc. Parce que par nature, l'Esprit de Dieu habite en moi. Ouais, c'est pas super. Parce que normalement, le petit bonhomme, le petit Stéphane d'après, le petit cœur est blanc, mais le corps, il est un peu gris et blanc. Parce que l'Esprit de Dieu, on le voit tout petit peu, mais l'Esprit de Dieu agissant dans mon âme et dans mon corps va transformer ma vie durant ma vie et faire que ma vie soit plus à la gloire de Dieu, mais pas toujours. Je suis encore souvent empêtré dans mes péchés. Quelques textes qu'on avait lus, et je vais les relire quand même, qu'on s'en souvient, et noter les images. La parole emploie des images qui sont fortes, et il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Lorsqu'il est dit que je suis né, et né spirituellement, la naissance c'est un acte unique. C'est pas quelque chose que je peux reperdre. Non, je suis né. S'il est dit que je suis adopté, je ne suis pas désadopté pour être réadopté le jour où j'ai confessé à nouveau quelque chose. Toutes ces expressions pour les paroles sont fortes pour, voilà, il y a un changement irréversible, une transformation. Je vais juste les dire, je suis un enfant de Dieu, je suis ressuscité et maintenant assis dans les lieux célestes, vivant par Christ. Et j'ai mis un peu à droite trois choses, trois vérités qui sont vraiment, qui reposent sur Dieu et pas du tout sur moi. C'est que vraiment Dieu m'a élu avant la fondation du monde, il m'a choisi avant la fondation. C'est quelque chose qui dépasse mon entendement, ma compréhension des choses. Mais néanmoins, c'est ce que dit la parole. Il dit que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en moi. Et ça, c'est son œuvre en moi, c'est pas moi qui fais ça. Et que personne ne me ravira de sa main. Et donc, si je perds mon salut, dans l'hypothèse que je veux regarder ce matin, je repasse de là à là-bas. Et ce n'est pas vraiment cohérent avec l'ensemble de ces versets. Je vais juste en reprendre trois, juste un tout petit rafraîchissement. On a parlé de l'élection, Dieu qui m'a choisi, élu avant la fondation du monde. Ça se repose sur ces deux versets, enfin ces deux passages, il y en a d'autres, mais principalement ces deux passages. Et ces deux passages, notamment la première partie de l'Épître aux Éphésiens, on est vraiment sur un passage de doctrine fondamentale, tout un argumentaire très détaillé que fait l'apôtre Paul pour expliquer le plan de Dieu pour le monde et dans le salut. Mais je vais passer, parce que sinon on va être trop tard. Dans l'Épître aux Hébreux, et j'ai voulu le montrer à nouveau, parce qu'on verra tout à l'heure que dans l'Épître aux Hébreux, il y a un certain nombre de passages qui sont un peu chagrinants, ils sont compliqués à interpréter, et on va revenir, c'est la partie de ces passages qui peuvent mettre le doute sur le salut. Et j'ai voulu quand même mettre en perspective que dans le chapitre 10, on a ce passage que par l'offrande de Christ, par une seule offrande, il est amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On a là des choses assez marquées, assez tranchées, sur lesquelles il est difficile de revenir. Parfait pour toujours, c'est ma position. Même si dans ma vie, il m'arrive de pécher, mais ma position, ce que je suis par nature, c'est un parfait, un saint pour toujours. Et puis cette très belle image, que si je suis dans la main de Dieu, personne ne peut m'enlever de la main de Dieu. La dernière fois, j'avais demandé de l'apprendre. Je ne sais pas si vous l'avez appris par cœur. Moi, je m'étonnerais. On va poursuivre et passer à ce qui peut nous perturber, nous chagriner un petit peu quand on lit la parole. Ah, juste avant, je voulais passer par ça. Quand on va chercher, et pour moi, c'est presque une méthode d'étude de la parole. Quand je veux étudier la parole, je veux te regarder tous les passages. Et donc la première partie qu'on a vue, c'est tous les passages qui me confortent. Je vais regarder les passages qui sont un peu opposés, on les verra après. Mais je fais une analyse, on va dire un peu, analyse des textes. Et je voulais faire remarquer que dans tous les textes qui parlent du salut et de l'assurance du salut, on ne voit jamais un verset, un morceau de verset qui tendrait à dire que ben non, il y a des conditions. On ne le voit pas. Ça, c'est de l'analyse de texte. La deuxième chose, c'est que vous n'avez nulle part un autre passage doctrinal, tout un chapitre, tout un qui va développer la perte du salut. On va trouver plein de passages, on va y arriver. Hein, vous... Mais ce n'est pas quelque chose de structuré comme un élément de doctrine, comme on le voit pour le salut. Alors, on y arrive. Tous ces versets, qui parfois, quand on les lit, ben... Si on les lit simplement, on pense qu'on peut perdre son salut. Et on va les regarder. Alors, en fonction de l'heure, on verra. Hein. À un moment, quand vous en aurez trop marre, vous levez les bras et puis j'arrêterai. Ou je sais pas quoi. On fera une deuxième séance avec ceux qui sont vraiment intéressés par ça. Parce qu'on va essayer de fouiller. Et pour fouiller, des fois, il faut aller creuser un petit peu. On va voir. Si on prend le verset comme ça, c'est pas simple. Mais si on prend tout chapitre, qu'est-ce qui est dit, à qui c'est dit, pour quand c'est dit. Mais ça, ça prend un peu de temps. Alors, on va attaquer le premier. Alors, sauf si vous me dites, s'il vous est trop évident pour vous que ce n'est pas un passage qui met en doute le salut, vous me le dites, on passe, on va gagner du temps. Si je ne persévère pas, en Matthieu 24, il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On peut en conclure que celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Et donc, c'est une condition de persévérer jusqu'à la fin. Vous êtes à l'aise avec ce que je dis ou pas? Alors on va regarder Matthieu 24. Matthieu 24. Alors on va pas toujours Matthieu 24, sinon on va vraiment... Matthieu 24. Et on va juste lire quelques versets pour situer le contexte de ce passage. Matthieu 24, verset 3. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et puis, le Seigneur va décrire dans le passage suivant cette période particulière du monde juste avant son retour en gloire. On peut juste lire par exemple verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Verset 10, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et on arrive au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et j'aimerais citer sur le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce passage est un passage particulier, Matthieu 24, 25, qui est un passage prophétique de qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église, dans cette période que, sans rentrer dans beaucoup de détails, on appelle la 70e semaine de Daniel. Et dans cette période-là, l'Église sera enlevée, et l'évangile qui va être annoncé, ce n'est pas l'évangile de la grâce, c'est l'évangile du royaume. Verset 24, l'évangile du royaume, vous trouvez cette expression que deux fois dans la parole ici, la deuxième fois je crois que c'est dans l'Apocalypse, mais ça il faudrait que je recreuse un petit peu. C'est un petit peu différent, l'évangile qui sera annoncé dans cette période particulière, c'est le retour de Jésus, pas pour enlever son église, pour venir régner sur terre pendant le millénium. Donc on n'est pas tout à fait dans la même période. Et donc... pas tout à fait sûr que ce verset s'applique forcément à nous. Je pense qu'il s'appliquera vraiment pour la période qui suit l'enlèvement de l'Église. Et pour moi, celui qui persévérera jusqu'à la fin, on voit qu'ils vont être persécutés, fortement persécutés. On le voit. C'est au verset. Voilà, verset 9, on vous lèvera au tourment, on vous fera mourir. Verset 13. L'amour du plus grand nombre sera refroidi, sera vraiment une période de persécution énorme, très très difficile, ce qu'on appelle la grande tribulation aussi. Et celui qui persévérera sera sauvé. L'interprétation qu'on peut en faire, c'est que c'est celui qui vont accueillir et qui vont rentrer dans le règne de gloire avec Jésus-Christ qui va régner en gloire. En tout cas, première parenthèse quand même, on n'est pas dans un... Pour moi, ce passage-là ne s'applique pas directement à nous. Il s'applique à une autre période, parce que c'est un passage prophétique. Je vais continuer avec un autre passage. Et si je ne suis pas fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et donc, voilà, si je ne suis pas fidèle jusqu'à la mort, eh bien, je n'aurai pas la vie éternelle. Alors, on va regarder Apocalypse 2. À qui est adressé ce verset ? Alors, il y a l'église d'Éphèse. Tout à fait. Apocalypse 2 et au verset 10. Non, c'est Smyrne, pardon. Non, c'est Smyrne, c'est parce qu'on a la deuxième partie du chapitre. Donc c'est à l'église de Smyrne. Et donc c'est une église qui a été très très fortement persécutée. Il est dit au verset 10 « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Il n'est pas parlé de vie éternelle, il est parlé de couronne de vie. Et la couronne de vie fait référence aux récompenses. Et le mot couronne, on le trouve plusieurs fois dans la parole. Voilà, il y aura des récompenses en fonction de ce que les enfants de Dieu auront manifesté pour lui, en fonction de ce qu'ils auront vécu. Il y aura un certain nombre de récompenses, et notamment la couronne de vie. Donc là, ce verset-là ne s'applique pas au salut, mais aux récompenses. On va continuer. Si je suis tiède, Dieu va me vomir de sa bouche. C'est un tout petit peu plus loin, Apocalypse 3. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est juste à côté. À qui est adressé ce passage-là ? À l'église de Laodicée. Déjà, on remarque que c'est quand même extrêmement fort, hein, ce passage, hein, quand même. Et pour une église, c'est extrêmement sérieux. Et donc, ce message est adressé à l'église de Laodicée. Juste petite analyse de texte, il s'adresse d'abord à l'église de Laodicée historique, qui a existé au 1er siècle. C'est d'abord à cette église-là que ce message est adressé. Après, il y a une portée générale. Parce que à travers toute l'histoire de l'Église, les Églises ont le caractère qu'a eu Laodicée. Ça s'adresse aussi à ces Églises-là. Le point que je veux souligner, c'est que ce passage, en tout cas, ce verset-là, puisque là on est au verset 16, puisque c'est au début du passage, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant », ce message s'adresse à l'Église. Il s'adresse à un collectif. Et pour moi, dans la parole, il y a des différences entre lorsque Dieu parle à une église, à un peuple ou à une personne. Et on pourra un jour l'étudier, mais Dieu ne demande pas les mêmes choses, Dieu ne juge pas les nations, les collectifs, les peuples ou l'église comme un individu. Et on voit que pour l'individu, c'est au verset 19. On est pour cette église de Laodicée, mais il dit, voilà, moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle, reprends-toi. Et donc, ce passage, pour moi, il est sérieux. Et en tant qu'église, on peut s'interroger. Mais pour moi, ce passage-là ne s'applique pas à un individu. C'est pas la même chose. C'est peut-être quelque chose qu'on peut un jour peut-être développer, mais pour moi, un passage d'un individu n'est pas un passage pour une église. Voilà. Il n'empêche qu'on peut avoir ce caractère de tiédeur, hein, en étant dans cette église ou même nous-mêmes. Mais je ne pense pas que cette promesse s'applique à moi. dans l'épître à Timothée, et là vous avez quatre passages de l'épître à Timothée, il me manque un d'ailleurs, il y en a quatre normalement, mais bon, qui parle de personnes qui se détournent de la foi. Alors vous avez certains, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, d'autres ils ont abandonné la foi, d'autres ils sont écartés de la foi, et celui que j'ai oublié de noter, j'ai apostasié leur foi, voilà. Et donc là on voit un certain nombre de personnes, voilà, qui ont sont détournées, abandonnées, écartées. Le mot foi dans la parole, il peut avoir plusieurs sens. Le premier sens, c'est la foi qui mène au salut. Et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le deuxième sens de la foi, c'est j'ai la foi, c'est j'ai la confiance pratique en mon Dieu chaque jour. Et le dernier sens de la mot foi, il y en a peut-être d'autres, mais au moins ces trois-là, c'est ce qui exprime parfois le contenu de la foi. C'est-à-dire toute la doctrine, tout l'ensemble des vérités chrétiennes. Et pourquoi dans ces passages-là, c'est le troisième côté de la foi. Pourquoi ça? On va lire quelques versets. 1 Timothée 4. Et au verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétissure de leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Voilà deux exemples de fausses doctrines qui avaient été prêché par ces personnes-là, et il dit voilà, ils ont abandonné la foi sur ces fausses doctrines, abandonné les fondements du christianisme. On peut lire aussi en 2 Timothée 2, un tout petit peu après dans la deuxième épître aux Timothée, au verset 2 Timothée 2 et au verset 18. Et on fait référence à ces deux personnes qui s'appellent Hyménée et Alexandre, qu'on a déjà vu dans la première épître à Timothée, on en reparle dans la deuxième. 2 Timothée 2, verset 18. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc là, c'est dans ces versets-là, on parle d'abandonner la foi. Mais voilà, c'est j'abandonne la foi, j'abandonne les vérités bibliques, telles que dire que la résurrection a déjà eu lieu, dire que voilà, ne pas se marier, s'abstenir d'aliments. Mais pour moi, on n'est pas dans la perte du salut. On est dans l'égarement de la doctrine chrétienne. Et si ma foi est vaine? Vous auriez cru en vain, votre foi est vaine. On va lire en 1 Corinthiens. Dans quel cas ma foi serait vaine? Vous connaissez la réponse?
Dans l'exemple où laquelle une croix est fausse. Dans l'exemple où laquelle une croix est fausse.
Oui, et c'est quoi la raison si jamais leur foi était en vain? Voilà. Quoi? Oui, 15. T'as raison, 1 Corinthiens 15 le décrit bien. Tout à fait, c'est juste là où on arrive, c'est qu'effectivement, ma foi elle n'est pas vaine parce que je me suis détourné, je n'ai pas été fidèle, je n'ai pas persévéré, j'ai commis quelques péchés. En fait, ce serait vaine. Si Christ n'était pas ressuscité. Et donc dans ce passage 15, il fait l'hypothèse. Et on voit ça par exemple en 1 Corinthiens 15 et par exemple, 1 Corinthiens 15, j'en suis là. On va lire par exemple au verset 17. C'est donc qui fait l'hypothèse. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans l'hypothèse où Christ n'est pas ressuscité, tout s'écroule. Ma foi est vaine, elle n'a pas de sens. Mais ma foi n'est pas vaine, en tout cas c'est pas dit dans la parole, parce que je n'ai pas persévéré ou quelque chose comme ça. Dans l'épître de Pierre, il y a un passage qui parle de se détourner du Saint Commandement. Il y a deux passages. Ah, on va les lire un peu plus parce que là, il y a du texte. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, le peuple d'Israël, hein, il y eut parmi le peuple d'Israël de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Car ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit du proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Quand vous avez l'expression « si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ », si je comprends cela comme étant des personnes qui sont sauvées, alors ils peuvent se détourner et leur condition est pire que la première, ils ont perdu leur salut. Ça, c'est si je considère que ils se sont retirés du monde et la connaissance, ils ont la connaissance, et ça c'est parce qu'ils ont été sauvés. Pour moi, c'est pas ça. Pour deux raisons. La première raison, c'est que on parle ici de faux docteurs. Il y a eu dans le peuple d'Israël de faux prophètes qui n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Et là on parle de faux docteurs qui ne sont pas d'enfants des enfants de Dieu. Et on peut le voir, pour moi, il y a une expression qui est intéressante, c'est la fin. Puisque le mot employé, et la parole utilise des mots intéressants, c'est qu'il parle l'expression d'un chien. Si vous fouillez un petit peu la Bible, l'expression chien, elle est très, très, très particulière. Vous la trouvez pas souvent. Et c'est jamais, c'est, déjà c'est un animal impur, ça vous le trouverez en Deutéronome 23, verset 18. Vous le trouverez en Ésaïe 56, où c'est le symbole des faux pasteurs. Vous le trouverez dans le psaume 22, où il est parlé de ceux qui ont torturé le Seigneur. Il n'est pas parlé d'une brebis. Pour moi, il est parlé d'un chien, animal impur, qui était impur. Il était un chien. Il a été mis dans la présence et a été dans l'église. Et après, il s'est retiré. Mais il a gardé depuis le début sa nature de chien. Il n'est jamais devenu une brebis. Et donc, on est là dans le cas de quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, qui ne s'est jamais converti. Il a pour un temps, parce qu'il a été dans l'église, il a découvert, il a connu quelque part le Seigneur Jésus-Christ de manière intellectuelle. Il a parfois changé un peu de sa vie, parce qu'en vivant dans une église, on va parfois changer une partie de son comportement. Mais sa nature même, il n'a jamais été transformé, sauvé, et il est resté un incrédule. Même si, parfois en apparence, et c'est une des choses, c'est que dans une église, et c'est particulièrement vrai quand on voit dans certaines épîtres, on le verra tout à l'heure, où l'apôtre met en garde en disant, mais dans une église, vous avez des gens qui ne sont pas convertis. Vous avez des enfants de Dieu, mais il y a aussi des gens qui professent simplement. Ils sont là, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et ces faux docteurs dont il a parlé, et qui semblent s'être éloignés, en fait, ils n'ont jamais été. des enfants de Dieu, juste des professants, des gens qui se disaient chrétiens. Je continue. Et si je leur renie ? De Timothée 2, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Alors même qu'on creuse, je voulais juste signaler que c'est quand même que ce soit une exhortation pour nous. On va voir que je pense pas du tout qu'on on touche au salut, mais que ce soit une exhortation pour nous à être fidèles à notre Dieu et à ne pas le renier. Ces paroles, pour moi, voilà, que ce soit quand même des avertissements pour nous à être sérieux dans l'engagement qu'on a avec notre Dieu. Juste, on va prendre un exemple. Quel est l'exemple que je vais prendre ?
Pierre.
Voilà, c'est bien, vous venez à ma place, ça va être plus simple, on va gagner du temps. Pierre, qui l'a renié 3 fois, et qui pourtant... Je ne pense pas, et je ne pense pas que vous pensez que Dieu va le renier. Dieu, comme c'est son enfant, il s'en est occupé. Et il a... Enfin, c'est le beau passage dans Jean où le Seigneur va restaurer son serviteur vraiment de manière touchante, malgré ce triple reniement. Et je crois qu'il peut nous arriver dans nos vies, dans nos paroles, de le renier. Ça m'arrive de le renier. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi va me toucher en travaillant mon cœur pour que voilà, je me repente, je confesse cela et que je m'engage à lui être fidèle. On va relire le passage dans son intégralité. On est en 2 Timothée. Parce que là, on a sorti un verset comme ça. Mais si on prend l'intégralité du passage, on est 2 Timothée 2, pop, 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 12. Mais on va commencer au verset 11. Parce que vous avez tout un passage avec 4 explications, 4 propositions. Il ne faut pas qu'on en prenne une seule, il faut qu'on prenne les 4. De Timothée 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si on prend ces 4 propositions, la première fait référence à mon identification avec Christ. Si je suis mort avec lui, c'est le cas, je vivrai avec lui. Et pour toujours. On revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. La deuxième expression, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. On ne l'a pas lu, mais si vous lisez juste un peu plus tôt, il est parlé d'un certain nombre de souffrances. Et pour moi, le parallèle, il est une fois de plus dans l'identification avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert, mais il va régner plus tard. Si moi je souffre et persévère avec mon Dieu, un jour je régnerai avec lui. On est là encore dans l'identification entre Christ et moi-même. Je vais revenir. Il ne faut pas que je fasse de gestes comme ça. Je suis désolé. On va sauter le verset 12, on va venir au verset 13. Parce que ce verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et ce passage-là, pour moi, il va vraiment à l'inverse. Puisque toutes les promesses que Dieu nous fait par rapport au salut, toutes les promesses qu'on a vues, Dieu ne revient pas. Si moi je suis infidèle, et je le suis, eh bien Dieu ne revient pas. Énorme différence, Et si le premier verset qu'on va voir là, se renier, peut effectivement m'embêter, le suivant peut vraiment me rassurer. Parce que Dieu ne revient pas sur ses promesses. Moi souvent, lui jamais. Alors comment concilier ces deux versets? Parce qu'entre l'un et l'autre, le premier semble me dire que voilà, si je renie, boum, tu me renies, et l'autre il me dit qu'il est fidèle et que... Pour moi, le premier verset qui dit « si nous le renions, lui aussi nous reniera », il fait référence, comme dans le passage précédent, à des gens qui sont professants, qui sont dans une église, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Et ça, vous le trouvez juste un peu plus loin, au verset 19. Le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans l'église, il y a ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et ils sont tous dans l'église, assis l'un à côté de l'autre sur une chaise. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et donc, dans une église, il y a des professants, je ne sais pas si ce mot est clair pour tout le monde, mais ces gens qui paraissent chrétiens, qui semblent vivre comme des chrétiens, mais qui n'ont pas été régénérés. Ici, dans cette salle, si vous n'êtes pas sûr d'avoir fait ce pas définitif d'être un enfant de Dieu, il faut faire ce choix aujourd'hui. Et pour les autres, pour ceux qui sont de réels enfants de Dieu, soyez sans crainte. Le verset suivant dit que si nous nous sommes infidèles, lui demeure fidèle et il ne se reniera jamais. J'ai oublié quelque chose. On va aller dans 1 Jean, au chapitre 1er. Toujours pour illustrer cette possibilité qu'il y a des gens qui ne soient pas sauvés, mais qui sont quand même dans une église, et qui parfois vont abandonner. Ils sont venus pour un temps dans une église, ils ont marché comme des chrétiens, et à un moment ils sont partis. Et il me semble que l'interprétation, c'est qu'ils n'étaient pas de véritables enfants de Dieu. Donc, 1er épître de Jean, chapitre 1er, au verset 19. Non, ça ne doit pas être ça, parce qu'il n'y a pas 19 versets. Ça ne doit pas être ça du tout, du tout, du tout. C'est au chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, l'Église, mais ils n'étaient pas des nôtres. Des enfants de Dieu. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Vous avez là, dans ce même verset, ces deux, ceux qui sont des nôtres, c'est-à-dire des enfants de Dieu, et ceux qui sont au milieu, mais qui n'en sont pas. Je vais passer à l'Épître aux Hébreux, où il y a quatre passages qui sont pour moi les plus difficiles, les plus compliqués à analyser. Je vais vous proposer une interprétation et je vous confesse que je la crois, mais qu'elle est quand même compliquée. Et que voilà, je vous partage ce que je crois avoir compris, mais avec prudence. Le passage, le premier passage est assez intéressant. Parce qu'il peut aller contre une pensée qu'on peut avoir. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les miracles du siècle à venir et qui sont tombés soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Et je ne suis pas sûr qu'on lit toujours bien ce passage en le creusant un petit peu, mais l'expression qui dit « il n'est pas possible que ceux qui ont goûté, participants, etc. soient renouvelés encore à la repentance. » Il n'est pas possible qu'ils soient renouvelés. Si ces personnes-là sont des enfants de Dieu, s'ils tombent, je ne peux plus me reconvertir. Je ne peux plus me repentir. C'est impossible. Ce qui n'est pas tout à fait... C'est pas toujours comme ça qu'on lit. Quelques personnes, des fois que j'ai discuté, qui croient qu'on peut perdre leur salut. Elles se disent, voilà, si je tombe, je peux me repentir et à nouveau être renouvelé. Mais c'est justement pas ce que dit ce passage-là. Il m'a dit que c'est pas possible. Vous me suivez ou pas? Je ne veux pas vous perdre. C'est juste pas possible. Et quelque part, le fait que Dieu dise que c'est pas possible que ces personnes-là, qu'une personne a supposé que ce soit un enfant de Dieu qui tombe et qui ne puisse pas être renouvelé à la repentance, ça va à l'encontre d'une quantité incroyable de versets sur le fait de confesser ses péchés, de se repentir et que Dieu est fidèle pour pardonner. On est complètement à l'opposé de ça. Mais ce passage dit que c'est impossible. Alors il y a trois interprétations. Donc la première, c'est celle que je viens vous dire, c'est que c'est qu'on peut tomber, mais qu'on ne peut plus se repentir. Et moi je crois que ça c'est pas possible. On ne peut pas interpréter ça comme ça. L'autre interprétation que moi je ne vois pas, c'est que ce sont des gens qui sont convertis, qui sont tombés, et plus qu'ils sont tombés, ils vont perdre leur récompense. Je ne le vois pas dans le texte, moi je ne comprends pas cette interprétation-là. Et pour moi, l'interprétation que je crois, c'est des personnes, des juifs, en parce que là c'est l'épître aux Hébreux, qui ont découvert l'évangile, qui se sont associés à une église, mais qui ne sont pas été convertis. Et donc, là où le texte est difficile, c'est que si l'interprétation sont des gens qui ne sont pas convertis, on a quand même des expressions qui sont assez fortes, qui est de dire qu'ils ont goûté du don céleste, ils ont été éclairés, devenus participants en Esprit Saint, goûté la bonne parole de Dieu, comme déjà assez fort comme expression, et on pourrait penser que ce sont des réels enfants de Dieu. Je vais prendre deux exemples. Pour moi, le premier exemple, c'est Judas. Prenez l'exemple de Judas Iscariote. C'est l'exemple d'un homme qui a été, parmi les 12, il a été éclairé, c'est sûr. Il a vécu 3 ans avec Jésus-Christ, il a vécu avec lui son enseignement. Devenu participant d'Esprit Saint, c'est déjà un petit peu plus compliqué à interpréter, je ne vais pas m'avancer sur ce point-là. Goûter la bonne parole de Dieu, clairement il l'a goûté. Judas Iscariote, il ne l'a peut-être pas reçu, mais il l'a goûté. Les miracles, moi je ne vois pas dans la parole qu'il est dit que, par exemple, lorsque Jésus envoie ses disciples en leur donnant pouvoir de faire des miracles, rien ne me dit que Judas n'a pas été parmi eux, en fait. Donc Judas a connu tout ça. Mais Judas, il est tombé, et s'est parpenti, s'est pendu. Et pour moi, c'est un exemple de ce passage-là. En tout cas, c'est ma manière de le comprendre, de l'interpréter. Mais je le dis avec prudence. Dans chapitre 12, je ne peux pas aller trop tard, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, vous avez un passage qui est similaire, où il est parlé de deux types de personnes. Il est parlé des boiteux et des profanes. Les boiteux, c'est moi, c'est vous, c'est ceux que le Père corrige. Il est dit que le Père corrige ses enfants. On peut juste rapidement, parce que je ne veux pas aller trop loin, parce que je n'ai pas fini. Hébreux 12, 12, verset 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et donc il dit, dans ce passage-là, vous êtes des boiteux, et je suis un boiteux, alors Dieu va me corriger, va s'occuper de moi. Mais un peu plus loin, il dit, mais non, il y a aussi des gens, c'est pas des boiteux, ce sont des profanes, comme Ésaü. Et l'exemple d'Ésaü, c'est quelqu'un qui était fils d'Abraham, qui était le fils de la promesse, qui avait tout, mais qui a vendu son droit d'aînesse. Et c'est pour moi les deux exemples de celui qui est boiteux et qui ne perd pas son salut, mais que Dieu va corriger. Et parfois, dans nos vies, si parfois on tombe, je ne perds pas mon salut, mais il y aura des conséquences dans ma vie. Et Dieu va me corriger pour me faire revenir. Mais c'est différent qu'être un profane et ne jamais être devenu un enfant de Dieu. Mais c'est ces passages-là, c'est ces deux-là, ainsi que celui-ci, qui sont un peu plus compliqués. Qui sont, on est dans le même ordre d'idées. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance. Voilà, je ne veux pas rentrer, c'est un des passages compliqués, et je vais arriver à ma conclusion. Je reviens sur mes quatre points. J'ai de très nombreux passages qui présentent le salut comme irréversible. Et il y a beaucoup de passages doctrinaux très généraux, avec des expressions dans la parole qui sont des images fortes, quiconque, à tous ceux qui, etc. On ne trouve aucun texte de ces textes qui parlent du salut, dont il est parlé de la perte du salut. Je ne trouve aucun texte qui aborde le sujet de la perte du salut, de manière doctrinale, expliquant les choses. Je trouve beaucoup de versets qui peuvent mettre le doute. On en a regardé la moitié à peu près, parce que sinon c'était trop long. Ils sont des fois adressés à une église, ils sont adressés pour une période particulière. Ces paroles sont souvent adressées à des professants, des gens qui sont dans une église mais qui ne sont pas sauvés. J'ai noté que dans tous ces passages-là, vous ne trouverez jamais les mots qui font référence au salut de vie éternelle, d'enfant de Dieu, de né nouveau, on ne les trouve pas ces mots-là. Et puis il y a des versets qui sont difficiles. Et les derniers que j'ai vus, je vous avoue qu'ils sont compliqués, qu'on peut avoir une interprétation, mais qu'elle n'est pas... Voilà, c'est juste une interprétation. Mais au final, ça fait ça pour moi. Quand je regarde globalement l'analyse des textes, tous les passages qui parlent de que je ne peux pas perdre mon salut, tous les passages qui peuvent me mettre le doute, mais en les creusant un peu dans leur contexte, je trouve une explication qui me semble satisfaisante. Il y en a quelques-uns qui restent où je ne les comprends pas. Mais pour moi, la conclusion, elle est sûre. Si je suis sauvé, je ne peux perdre mon salut. Alors, il y a bien des versets qui me chagrinent un peu. Au ciel, je saurai quoi faire, et je discuterai avec l'apôtre pour qu'il me les explique. Mais voilà. Il n'empêche que, compte tenu de tout cela, dans une vision un peu systématique et une étude systématique, je peux être serein dans le repos de Dieu. Je suis sauvé, je suis pour toujours. Alors, je vais terminer par ça. Je pense que parfois, ça nous chagrine qu'on soit sauvé pour toujours, quoi qu'on fasse. C'est ça qui nous chagrine. Je suis sauvé, mais je peux faire n'importe quoi. Et ça m'arrive. Et pour moi, ça fait référence à ça. C'est qu'il y a deux vérités à concilier. La première vérité, c'est la grâce de Dieu, qui repose sur sa grâce et sur sa fidélité. C'est que je suis sauvé par grâce, ça repose sur sa fidélité. Et l'extrême, je fais ce que je veux, je suis sauvé, c'est cool. Et en même temps, il y a une autre vérité qui est toujours dans la parole, tout le temps, du premier au dernier verset, c'est que je suis responsable de mes actes et qu'il y aura un juste jugement de mes actes. Vous le trouvez partout dans la parole, ça. J'ai juste mis deux extraits de versets. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Et on rigole ce qu'on sème. C'est un principe biblique qu'on trouvera partout. Et comment je vis avec les deux? Alors, je vais vous proposer un petit schéma. Désolé. Mon cerveau est construit comme ça. C'est que vous avez deux catégories de personnes. Vous avez ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. La première chose, c'est ce qui concerne le salut. Et bien, soit je suis sauvé par grâce, et je serai pour l'éternité avec Dieu, je le suis déjà, et ça ne s'arrêtera jamais. C'est super. Soit je refuse la grâce, et donc je serai éternellement loin de Dieu. Par contre, ce qui concerne ma responsabilité, le jugement de mes actes, ce principe-là demeure. Et donc, pour ceux qui sont sauvés, ils sont responsables de leurs actes. Et un jour, comme tous les enfants de Dieu, on passera devant ce que la parole appelle le tribunal de Christ, où je vais avoir le plaisir et le moment pas toujours agréable de revoir tout ce que j'ai fait pour mon Dieu. Des fois les choses ça va être sympa et d'autres ça va être plus compliqué. La parole nous dit qu'il y aura des récompenses en fonction de ce que j'ai vécu, en fonction de comment j'ai été engagé, si j'étais un martyr, il y aura des récompenses. Et là, le principe de « je suis responsable de mes actes et Dieu me jugera en fonction de mes actes », il s'applique là. Et pas. Et pour les perdus, c'est pareil. Le principe de la responsabilité du juste jugement de leurs actes, c'est aussi vrai. Mais là, on n'est pas au tribunal de Christ. On est dans l'Apocalypse devant le grand trône blanc. Et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle des peines justes. La première des peines, quand on n'a pas cru, c'est d'être loin de Dieu. Mais il n'empêche que dans la parole, il y a parfois des peines où il est dit que certains seront punis plus sévèrement que Sodome et Gomorre. Il y a une graduation. Et donc ce principe de « je dois être », comment dire, comme je serai jugé justement, j'ai à être sérieux dans ma vie et à semer car je vais récolter. Et ça, c'est juste l'introduction de mon prochain message, où je vous parlerai des récompenses, et puis peut-être après, des peines éternelles. Mais en tout cas, je vous parlerai des récompenses. Parce que je suis sauvé par grâce, et je peux être en parfait repos. Mais je prie que vous soyez comme moi, saint, et que réellement, on soit sérieux pour notre Dieu. Parce que je vais être face à lui un jour, et toutes ces pensées que vous ne voyez pas que j'ai eues, hein, si vous fouillez un peu vos cœurs et que vous regardez vos pensées, il y a parfois de quoi trembler en se disant, quand je vais revoir ça avec mon Dieu, ça va être chaud. Hein. C'est un Dieu de grâce, mais quand même, on ne se moque pas de Dieu. Je voulais terminer avec ma conclusion. Choses. La première chose, c'était un tout petit peu de méthode. J'ai pas fait de fac de théologie, je sais pas. Par contre, je crois que avec l'Esprit de Dieu, quand il y a un sujet, si on veut le travailler sérieusement, en prenant l'intégralité des versets, en cherchant la pensée commune d'abord, puis en cherchant de creuser les versets les plus compliqués après les versets les plus simples, je crois que Dieu nous éclaire. Et voilà, c'est juste, voilà, ça demande du temps, ça demande de travailler, et je voulais vous dire merci au fait, j'ai oublié de dire ça, parce que celui qui a reçu, c'est pas vous, un petit peu, c'est surtout moi, quand je travaille ça, parce que cette semaine j'ai un peu bossé, parce que je voulais pas raconter de bêtises, Dieu m'a énormément béni dans cette étude comme ça, donc merci à vous, et voilà, c'est cette méthode de dire, quand je veux avec l'Esprit de Dieu, fouiller un sujet dans la parole, Dieu révélera les choses. Si vous êtes un enfant de Dieu, soyez sûr de votre salut. On peut entrer dans le repos de Dieu. Mais soyez saints. Et la dernière chose, c'est que j'ai présenté que, à mon avis, 50% des versets qui chagrinent un peu, hein, qui posent problème. Et donc, si certains vous perturbent et je ne les ai pas traités, il y a plein de possibilités. Vous venez me voir, vous m'envoyez un mail. Enfin, on peut se débrouiller pour aller plus loin. Si on veut aller au bout de l'étude, on peut y aller. Je pense que c'est intéressant d'aller creuser comme ça. Il y aura une bénédiction. Donc, n'hésitez pas, soit avec moi, soit avec les anciens, pour aller vraiment au fond des choses. Voilà, on va terminer en priant. Père, on te remercie parce que par ton esprit, tu nous révèles les choses. Merci pour cette parole. Merci parce qu'elle éclaire nos vies. On veut te dire merci d'un si grand salut. Un salut où nous sommes maintenant enfants de Dieu et on peut se reposer sur cette promesse. Merci pour ta fidélité. Si moi je suis souvent infidèle, tu restes fidèle. Et Père, on... on désire aussi être saint comme toi tu es saint. Être pleinement dans le repos d'un enfant de Dieu qui n'a pas à craindre pour son salut. Mais on veut être des enfants qui rendent honneur à leur Père. On te prie que ton esprit travaille nos cœurs et qu'on te soit fidèle jour après jour. Et qu'il n'y ait pas dans nos vies ni reniement ni lâcheté, mais qu'on soit réellement engagé pour toi, pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous souhaite... Ah ben non, Ina me revient, j'ai rien dit, c'est lui qui reprend la suite.
Merci à toi, frère Stéphane, tu auras d'autres opportunités de donner le titre. Après une telle intense nourriture, je vous invite à vous laisser pour chanter, pour terminer, quel repos. Juste le premier vers, le premier strophe, le quel repos. Levez-vous pour chanter ce chant dans la joie.